Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, une femme exceptionnelle entre dans le studio de la curiosité. Lucie Aubrac, résistante de la première heure, entrée dans la légende en arrachant son mari aux griffes de la Gestapo. Cette femme d'audace a disparu il y a 10 ans et c'est nos confrères du magazine Notre Temps qui lui rendent hommage avec ce très beau portrait signé d'une autre femme exceptionnelle, France Montaigne. Bienvenue à vous, on est ravis de vous retrouver. Lucie Aubrac, c'est, pour la présenter en quelques mots, une femme de combat.
C'est une femme de combat, toujours en mouvement et qui ne baisse jamais les bras et qui fondamentalement est optimiste. C'est comme ça qu'elle se décrivait. Elle disait « je suis pas courageuse, je suis optimiste ».
Des résistantes, il y en a eu plusieurs, des femmes résistantes. Pourquoi Lucie Aubrac, elle entre dans la légende ?
Elle entre dans la légende parce qu'elle a fait quelque chose d'étonnant. Elle a participé, enfin même organisé, l'évasion de son mari à Lyon. Et ce faisant, ça a été la première fois qu'au nez à la barbe de la Gestapo, en pleine rue, des résistants ont réussi à soustraire d'autres résistants à la prison. C'est une première historique en 43 dans l'histoire de la résistance.
Et puis si on continue en quelques mots, parce qu'on va ensuite avoir une bonne demi-heure pour raconter dans le détail les grandes étapes de la vie de Lucie Aubrac, sa vie justement, c'est une vie d'engagement. Ne s'arrêtera pas après
ça
la guerre.
Ça ne s'arrête jamais en fait. De toute petite, elle prend des décisions courageuses, étonnantes. Elle résiste à des mauvaises fatalités et elle va le faire de l'enfance à son dernier souffle à 94 ans.
Le destin de Lucie Aubrac, c'est tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Comment ça se fait qu'on s'est engagé sans être obligé dans un combat qui s'appelle la résistance? Et comment ça se fait qu'on y est resté quand on a vu que c'était dangereux?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'ai le décret du maréchal Pétain qui dit que toute personne d'origine juive doit porter l'étoile jaune.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Cette résistance, elle est caractérisée par des gens
curieuses, curieux,
qui volontairement désobéissent pour se lancer dans une autre aventure qui est celle de la résistance.
Vous êtes chez vous sur RTL.
La voix et l'engagement de Lucie Aubrac dans La Curiosité et sous la plume de Florence Montaigne du magazine Notre Temps. Vous nous faites le portrait de cette grande résistante qui a disparu il y a 10 ans. Florence, on va remonter le temps avec vous. Nous sommes le 21 octobre 1943, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Où est Lucie qui ne s'appelle pas encore Aubrac?
Non seulement elle ne s'appelle pas Aubrac, mais pour tous les gens qui l'accompagnent, elle s'appelle Catherine, parce que c'est son nom de guerre. Donc effectivement, 21 octobre 1943, à Lyon, dans l'avenue Berthelot, qui est l'adresse du siège de la Gestapo à Lyon, où règne le tristement célèbre Klaus Barbie, dans une voiture, dans une traction, il y a cette dénommée Catherine, entourée de résistants armés qui attendent l'arrivée, la sortie du siège de la Gestapo d'un fourgon dans lequel il y a 14 détenus, dont un certain Raymond Aubrac, qui est le mari de Catherine, qui est en réalité Lucie Aubrac. Mmh. Et elle va donc s'apprêter à emmener, à terminer son plan d'évasion pour son mari.
Elle a quel âge, Lucie ?
Elle a 31 ans.
Toute jeune ?
Elle est jeune, elle est enceinte de 5 mois, donc c'est pas anodin. Elle a déjà eu un premier enfant avec son mari. Et c'est la seule femme dans cette opération commando qu'elle a organisée depuis des mois pour effectivement libérer son mari qui, elle a pas beaucoup de temps, puisque c'est sur une distance de 3 km, ce fourgon quitte la Gestapo pour aller à la prison du fort de Montluc, qui est distant vraiment de 3 km à peu près. Et donc elle va mener l'assaut à 300 mètres du point d'arrivée, la prison de Montluc. Le commando va abattre l'escorte et ils vont ouvrir le fourgon et libérer les 14 détenus, dont Raymond. Et ça va donc, comme je le disais tout à l'heure, la première fois que la Gestapo est mise en échec dans la rue et qu'il y a des détenus, des résistants détenus qui sont libérés.
Donc ça, c'est quoi? C'est son stratagème pour pouvoir venir et repérer les lieux, etc.
Assez génial, parce que ça peut nous paraître curieux à nous, mais oui. C'est convaincant. Elle s'habille en femme de la bonne bourgeoisie. Elle raconte en gros que c'est une pauvre jeune femme séduite, dont elle ignorait totalement la double vie de ce prétendu fiancé et qui dit « Vous ne pouvez pas tuer-le si vous voulez, mais laissez-moi l'épouser. »
Mais parce qu'à l'époque, c'est important, c'est une valeur, c'est ça, on ne peut pas laisser une fille mère comme ça.
En 43, une fille mère, c'est le déshonneur. Donc c'est crédible. Donc elle a la bonne idée. Oui. Et elle va être reçue par divers officiers.
D'accord.
Et elle finira même par voir Klaus Barbie.
Qu'est-ce qu'elle va lui dire?
Face à face, elle va lui dire « Laissez-moi épouser cet homme en prison. Donc transférez-le ici, laissez-nous nous marier, laissez-le repartir. Et si vous voulez l'exécuter, exécutez-le. » Et son idée, évidemment, c'est en ayant la date du transfert, d'attaquer le fourgon, ce qu'elle va faire le 21 octobre, pour libérer son mari.
Qui est son mari, Raymond Samuel? Pourquoi il est arrêté?
Alors, il est arrêté parce que c'est un des chefs de la résistance et que il va être arrêté lors d'un moment historique, puisque c'est les différents mouvements de la résistance qui essaient de s'unir autour d'une grande figure qui est Jean Moulin, qui va être le premier président du Conseil national de la résistance, donc des mouvements de résistance unifiés. Et ils ont donc une réunion extrêmement importante avec plein de chefs de mouvements de résistance, avec Jean Moulin, à Caluire, près de Lyon. Et là, il va y avoir une descente de la Gestapo, et vont tous se faire arrêter, sauf un, qui va étrangement réussir à s'évader, qui est un dénommé René Hardy, qui va être plus que soupçonné d'être celui qui a livré les résistants à la Gestapo, parce qu'ils ont été livrés. C'était impossible de savoir qu'ils allaient se réunir à ce moment-là sans que, effectivement, quelqu'un de l'intérieur les trahisse.
Oui. Quand Lucie Aubrac, Catherine pour la résistance lyonnaise, se présente à la Gestapo, elle demande à être mariée à qui?
Alors,
à son mari ou à un homme, un autre détenu qui sera dans le fourgon?
Au dénommé Claude Hermelin, qui est un des nombreux pseudonymes de son mari. Alors, il faut suivre. Hein.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais donc, elle joue presque franc-jeu, en fait, d'une certaine façon. C'est-à-dire,
ils sont mariés, eux, déjà.
Oui.
Hein. Donc, et l'enfant qu'elle porte est en effet l'enfant de l'homme qu'elle voudrait épouser, dit-elle. Hein.
C'est d'une ironie.
Donc,
voilà,
mais il faut qu'elle soit sûre que Raymond sera dans le fourgon.
Oui, donc elle ne peut pas mettre n'importe quel homme, bien
donc,
sûr, c'est
logique. Donc elle sait très bien sous quel nom il est arrêté, elle sait très bien sous quel pseudo il s'était rendu à cette réunion, donc elle le sait, c'est Claude Hermelin. Ouais. Et donc elle dit, Claude Hermelin, j'ai une aventure avec lui, je suis enceinte, laissez-moi l'épouser.
Et ça va marcher.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Le combat de Lucie avait commencé bien avant-guerre à Strasbourg.
Thomas Hugues.
Elle est professeure d'histoire et vit avec un jeune ingénieur, Raymond Aubrac.
Sidonie Bonnec.
Dès 1940, ils vont monter ensemble un des premiers réseaux de résistance.
La curiosité est un vilain défaut.
À Lyon, de 40 à 42, le couple participe à toutes les actions du réseau animé par Jean Moulin.
Si votre défaut, c'est la curiosité...
À deux reprises, Raymond Aubrac est arrêté et par deux fois, Lucie réussit à l'arracher aux griffes de la Gestapo de Barbie. En 44, le couple s'enfuit à Londres jusqu'à la libération.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Lucie Aubrac, disparue il y a 10 ans, et avec le magazine Notre Temps, on dresse son portrait. C'est l'un de ses grands destins que vous partagez avec nous sur RTL. L'héroïque Lucie Aubrac, c'est le titre de votre article, Florence Monteil.
Comment il démarre justement ce destin, Lucie Aubrac? Elle naît dans quelle famille, quel milieu?
Alors, elle naît dans un milieu très modeste. Ses parents sont originaires de Saône-et-Loire. Lui, il est jardinier. Sa maman est ouvrière, tantôt blanchisseuse, tantôt laitière. Ils vont en tenir un bistrot, mais ça ne va pas durer très longtemps. Elle naît en 1912. La toute petite enfance va être marquée par le départ du père à la guerre. Elle va aller chez ses grands-mères en Saône-et-Loire. Et donc, son père va être très gravement blessé. Il va revenir en 18... en partie invalide, il va pouvoir continuer à être jardinier, mais c'est un homme extrêmement diminué qu'elle va avoir comme père en grandissant. Et ça va la marquer aussi beaucoup. Elle est profondément pacifiste, elle l'est dès ses actes de résistante, mais elle va le rester bien longtemps après. Et certainement que ce qu'elle a compris, ressenti dans son enfance de ce qu'a été la Première Guerre mondiale, et concrètement dans la chair de son père, a été assez décisif.
À 17 ans, elle quitte la Saône-et-Loire, elle monte à Paris, comme
alors,
on dit.
C'est pas, tout à fait 17 ans. Alors, c'est une bonne élève. Elle a une seule sœur, cadette d'un an, et toutes les deux, ce sont des bonnes élèves. Mais plus ça va aller, plus Lucie va montrer vraiment des dispositions incroyables pour les études. Donc, elle passe son certificat d'études. Et puis, elle va en fait vouloir devenir institutrice. Donc, extrêmement encouragée par ses parents, qui vont quitter la Saône-et-Loire, venir en région parisienne, pour lui permettre de préparer le concours de l'école normale pour devenir institutrice. Et ce qui est quand même déjà une grosse motivation. Des parents étaient très soutenus dans ses études. Et,
elle va y arriver.
Et donc, elle va échouer une première fois. Échouer une seconde fois. Et là aussi, elle est là-dedans, Lucie Aubrac. Lucie Bernard, à l'époque. Hein, son nom de jeune fille, c'est Bernard. Elle échoue, elle recommence. Elle échoue encore, elle recommence.
Et à côté de ses études,
la troisième fois, elle va y arriver.
Il y a toujours le militantisme, l'engagement. Déjà, elle est sur le terrain, Lucie Bernard.
Plus elle décide de faire des études, plus elle s'engage dans le militantisme. Donc, elle peut devenir institutrice. Elle décroche ce concours. Et finalement, elle dit non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être institutrice. Je veux devenir professeure d'histoire. Incroyable. Professeur d'histoire, ça veut dire qu'il faut qu'elle passe le bac, il faut qu'elle passe une licence, puis qu'elle passe l'agrégation. C'est énorme. Elle n'a jamais fait de latin, par exemple. Et bien, c'est reparti. Les parents sont un peu désorientés, là, quand même. Donc, elle dit, vous inquiétez pas, je prends tout en charge.
Et alors, elle trouve des petits boulots.
Elle trouve des petits boulots. Elle s'assume complètement. Elle se trouve une chambre au quartier latin. Elle bosse le jour. Elle travaille en autodidacte la nuit. Et elle va décrocher son bac. Et puis après, elle va passer la licence et elle va échouer une fois et deux fois. Trois fois, elle échoue. Quatrième fois, elle y arrive parce qu'il faut qu'elle apprenne le latin. Elle n'a jamais fait de latin. Oui, elle avait un niveau de certificat d'études. Et elle va se hisser. Et puis finalement, elle décroche sa licence. Et en 1938, du premier coup, elle a l'agrégation d'histoire géo.
Tout ça grâce à l'optimisme de Lucie Aubrac.
C'est énorme. Et puis la volonté, ouais. L'endurance.
Et l'engagement politique, parce qu'on est dans fin des années 20, début des années 30, c'est les ligues fascistes, c'est la montée du nazisme à partir de 33, etc. Elle s'engage.
Alors elle, dès lors qu'elle est au quartier latin, elle donne libre cours à cette énergie pacifiste. Donc elle va rejoindre le Cercle international de la jeunesse, qui est un mouvement pacifiste, avec lequel elle va d'ailleurs faire des voyages à Berlin, en Angleterre, elle va suivre des conférences, elle va écrire des articles dans la presse du mouvement, et puis elle va aller faire le coup de poing, elle va aller distribuer des tracts et faire le coup de poing tranquillement, elle a 20 ans, elle a 21 ans, et elle va se bagarrer avec les jeunes fascistes des ligues d'extrême droite. Il n'y en a qu'une qui fait ça, c'est elle. Hein. Elle devient d'ailleurs très très populaire. Dans ces années-là, dans les années 30, elle va aussi rejoindre les jeunesses communistes. Hein, donc, elle va adhérer aux jeunesses communistes. Et elle est connue pour son énergie, son sens de la répartie incroyable, son courage physique et puis ce côté un peu cheval fou qu'on ne contrôle pas.
Il y a et l'amour, alors, quand est-ce que l'amour va entrer dans la vie de Lucie Aubrac, le fameux Raymond Samuel, que quelques années plus tard, elle va libérer des griffes de la Gestapo à deux reprises. On vous raconte cette histoire tout de suite dans la curiosité.
RTL Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'héroïque Lucie Aubrac, c'est le thème de notre curiosité, le titre du très beau portrait de notre invitée Florence Monteil dans les pages du magazine Notre Temps. Et c'est en partenariat avec Cartel, on racontait l'incroyable ascension de cette femme courageuse, de cette femme qui passe le bac tard, qui a une agrégation, qui milite aussi, qui donne le coup de poing, qui se bat pour la liberté du peuple français et qui va tomber amoureuse de Raymond Samuel. Comment elle rencontre ?
À premier poste de prof d'histoire à Strasbourg, et là, il y a un ingénieur des ponts et chaussées, Raymond, qui fait son service militaire. Et bim, ils se rencontrent, ils parlent de la même chose.
Bim ?
Bah oui, bim, bam, boum, badaboum, boum, boum. Bah oui, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes élans, les mêmes convictions. Alors, avec lui, c'est un scientifique, posé, pondéré, laconique. Et puis elle, c'est une intellectuelle, un peu fantasque, très, très volubile, très passionnée.
Mais il va être dans l'action aussi, ils vont créer tous les deux un mouvement
dans l'action,
de résistance.
C'était dit tout à l'heure là, dans un son que vous avez passé.
La mise en onde de Sébastien Dulé.
Voilà, en 1940, avec Emmanuel Dastier de la Vigerie, ils vont créer le mouvement Libération Sud, qui est un des plus importants mouvements de résistance.
On l'a dit tout à l'heure que Lucie Aubrac a déjà libéré son mari avant cette fameuse opération du fourgon libéré à Lyon. C'était à quelle occasion ?
Alors en tout, trois fois quand même.
À trois fois ?
La première fois, effectivement, c'est fin 39. Il est pendant son service militaire, il est fait prisonnier à Sarrebourg. des Allemands. Et donc, elle va une première fois le libérer, là. Et en 43, avant l'évasion spectaculaire du fourgon, quelques mois avant, il avait été arrêté une première fois. Et avec le même aplomb qu'elle mettra, c'est comme une répétition générale, qu'elle mettra face à Klaus Barbie, elle va voir le procureur de la République dont dépendait la relaxe de Raymond Aubrac, et elle lui dit, elle lui fait du chantage, elle lui dit, il y aura des représailles si vous ne libérez pas Raymond. Et elle l'avait fait libérer. Trois fois, elle a libéré son homme.
Ouais. Cette opération d'octobre 43, où elle sort son mari de ce fourgon qui le mène au siège de la Gestapo à Lyon, ça a quand même des conséquences intimes. Elle est enceinte à cette époque. Qu'est-ce qui lui arrive?
Et ben alors, donc, ils vont devoir quitter la France occupée. Et donc, ils vont à Londres. Ils arrivent à Londres le 8 février. Alors, mais accueillis comme des légendes vivantes, ouais. Surtout elle. Acclamé. Et en plus, pour encore plus bâtir cette légende, trois jours après son arrivée, à la fin d'une soirée un peu joyeuse et arrosée, elle accouche de son troisième enfant. Hop là, tout ça en passant. Et elle avait, c'était vraiment une force qui va, comme dit Hugo, rien ne l'arrêtait. Quoi.
Quel job elle va faire à partir de ce moment-là, alors, Lucie Aubrac, à Londres?
Il reste à Londres un certain temps. Elle, c'est un peu une vedette quand même, au sens noble du terme. Donc elle va mettre ça au service quand même de remonter le moral des résistants en France. Donc elle va parler sur Radio Londres, elle va donner des consignes, elle va encourager les femmes. Donc elle va avoir toute une activité militante. Avec les moyens de la France libre à Londres, notamment la radio. Et puis elle va participer à plein de comités, elle va avoir des fonctions dans le futur gouvernement provisoire. Enfin, elle est au cœur des nouvelles institutions nées des mouvements de résistance. Donc elle a des fonctions importantes.
Oui. Cette vie d'engagement, Florence Monteil, ça continue après la Seconde Guerre mondiale. Sous quelle forme?
Alors, ça va continuer, notamment après-guerre, Raymond Aubrac va cofonder un mouvement, le mouvement de la paix, qui est un mouvement qui existe toujours aujourd'hui, donc dont il est à l'origine. Et assez vite, en fait, Lucie va plus travailler que lui au sein de ce mouvement, cette organisation internationale. Et ça va être quand même le grand œuvre de l'après-guerre pour les Aubrac.
C'est la période de la guerre d'Algérie qui va arriver. Voilà. Comment s'engage-t-il à ce moment-là?
Alors là, ce qui est compliqué, c'est qu'au milieu des années 50, donc ils étaient compagnons du Parti communiste. Elle avait été aux Jeunesses communistes. Après, les rapports sont un peu compliqués avec le Parti communiste et ils vont vraiment se dégrader au moment où le Parti communiste français soutient la guerre d'Algérie. Et donc là, ils se disent, on n'a plus rien à faire dans ce pays. On a donné ce qu'on a pu donner. Mais là, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc, ils vont vraiment se consacrer au versant international de leur engagement, quitter la France. Et ils ne vont revenir en France qu'en 76, c'est-à-dire 18 ans plus tard. Et quand ils reviennent, on les a oubliés.
On les a oubliés, mais soudain on va se souvenir d'eux, et notamment l'avocat de Klaus Barbie, Jacques Vergès, qui va tenter de les impliquer dans l'arrestation de Jean Moulin.
Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans les années 80, quand Klaus Barbie est extradé de Bolivie pour être jugé en France, il va y avoir une espèce de remontée nauséabonde, de tentative vraiment lamentable. Alors, de Maître Vergès, qui était donc l'avocat de Barbie, de René Hardy, qui l'homme qui avait trahi Jean Moulin, qui est quand même mort dans l'histoire en juillet 1943, va écrire un livre en disant c'est les Aubrac qui ont trahi Jean Moulin, donc qui renverse complètement l'accusation. Lucie Aubrac, qui a plus de 70 ans, réplique en écrivant un livre qui s'appelle « Ils partiront dans l'ivresse », qui est un livre magnifique où elle raconte les 9 mois de tout ce moment-là en 1943. Et il va y avoir, en fait, sur une décennie, entre les charges contre les Aubrac, les défenses des Aubrac, une espèce de remise en lumière, surtout de Lucie, qui va être la plus passionnée, la plus active. Elle va passer dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Ouais. Ça va être un moment qui est dans la mémoire, disons, des plus de 20 ans.
Il y a un film qui sera fait sur ça.
Il y a un film qui est fait en 97 avec Carole Bouquet, qui s'appelle Lucie Aubrac, avec Carole Bouquet dans le rôle de Lucie Aubrac. Et tout d'un coup, elle va revenir dans la lumière. Alors que quand elle rentre en 76, plus personne ne sait qui elle est. Et là, elle va revenir en lumière. Et d'avoir été attaquée comme ça, ça va lui redonner une espèce d'énergie. Et donc, c'est une femme qui a 85 ans, parcourt les écoles, écrit des articles, fait des conférences pour réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la résistance, c'est quoi résister, et qui va reformer des générations de de jeunes gens, de jeunes élèves.
Lucie Aubrac est décédée le 14 mars 2007 à 94 ans. Elle est enterrée où ?
Alors elle est enterrée, ses cendres ont été enterrées dans un petit village près de Cluny, qui est le village natal de son papa. C'est là qu'elle avait demandé à finir sa vie.
Merci beaucoup
Florence Montaigne. Merci à vous. Je rappelle que votre très beau dossier est à lire dans le magazine Notre Temps, à découvrir en kiosque. C'est la fin de la première partie de la curiosité du week-end. On se retrouve demain, quelle belle nouvelle, à 14h.
Mais oui, on sera là avec un portrait de Christine and the Queens. Elle doit être déçue quand même de ne pas avoir reçu un Brit Award. C'était Beyoncé qui l'a eu mercredi soir.
Oui, mais nous on l'adore sur RTL et on la diffuse tout le temps. Et puis aussi un éventail des promesses électorales les plus folles, drôles et farfelues.
Ça va donner, on vous l'assure, c'est vraiment très très drôle. Dans un instant, place au grand studio humour, là aussi on va rigoler, avec Laurent Boyer qui reçoit Jean-Luc Lemoyne.
Tu fais pas gaffe, tu te fais mordre par un con, tu deviens con. Vous savez qu'à lire les journaux, j'en vois tous les jours. Par exemple, et je vous promets que c'est vrai, il y a un type qui a essayé de détourner un avion en menaçant le personnel de bord avec une barre de Toblerone.
C'est pas raisonnable, Toblerone, faut le manger. Allez, bon après-midi à vous, à demain. RTL, il est 15h.